petite fille, pleure tout l'escargot s'habille. Il est mon petit garçon, l'heure où sort le limaçon.
Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, dites-nous quelle heure il est. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, dites-nous quelle heure il est.
L'heure étrange et solennelle, où chantent les coccinelles, où la puce et ses enfants vont dîner chez l'éléphant. L'heure où tout peut arriver, où je dors, où vous rêvez.
On vient d'écouter donc chanson de l'heure qu'il est de Fauffrey Becker. Je ne voulais pas partir sans remercier infiniment Nathalie à la technique. Merci à toi Nathalie. À toi Gaëlle.
Alors, c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry sur 89.4 Radio Libertaire. Aujourd'hui, une rediffusion. On va d'abord réécouter un débat qui est souvent important pour le partage de l'espace dans la cour de récréation, c'est comment éviter que le foot ne soit un sujet de bagarre. C'était le centre de loisirs Torres qui avait initié de nouvelles règles en 2019. En particulier, aucune équipe ne pouvait jouer s'il n'y avait pas trois filles et trois garçons à l'intérieur de l'équipe. Et à 14h20, vous pourrez découvrir dans son entièreté d'abord la lecture de l'album « Inès voulait aller danser » Libertalia 2020, puis l'interview de son autrice Manon Bouchareux. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Voici le sommaire.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, revoilà la classe de CM2 A et B du maître Thomas et de la maîtresse Sarah. Et aujourd'hui, je suis avec
Radou,
Samy
et
Milena
et moi-même Lorna.
L'année dernière, il y avait surtout des garçons qui jouaient au foot. Maintenant, il y a une nouvelle règle. Il faut qu'il y ait autant de filles que des garçons dans l'équipe. Mais parfois, c'est pénible, car il n'y a pas toujours des filles qui veulent jouer.
Parfois, les garçons forcent un peu les filles. Ils les obligent, car les filles n'aiment pas trop jouer au foot.
Si on n'a pas envie de jouer, on n'est pas obligé. Mais bien sûr qu'il y a des filles qui ont envie de jouer. Il y a certaines filles qui aiment ça.
C'est bien quand il y a des garçons et des filles dans une équipe. Avant, dans une équipe, il pouvait n'y avoir que des filles et dans une autre, que des garçons. Mais comme les garçons sont souvent plus forts, parce qu'ils jouent plus souvent, dans des clubs ou à l'école, forcément, ils gagnaient.
« Donc moi, c'est Youssef Alouane. Donc du coup, je suis animateur au centre de loisirs Maurice Thorez élémentaire et je suis sur Thorez depuis janvier 2015. Que c'est le football, ou voire même le basket, ou voire même le handball, ce sont des sports bien identifiés. Moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de mixité que ça comparé aux autres jeux de ballon, notamment filles-garçons. Du coup, les filles jouaient au foot, participaient, mais on était dans une forme de compétition. C'est-à-dire qu'on avait organisé un tournoi le midi et quand il faut gagner les matchs pour passer au tour suivant, parfois il y avait de l'animosité et il y avait beaucoup, beaucoup d'énervement par moment. Il y avait des comportements très conflictuels. Et parfois, ça pouvait aller. On n'en était pas très loin d'arriver à la bagarre. Hein, donc, il y avait des noms d'oiseaux qui volaient. Il y avait des. Voilà, c'était pas sympa. On a vraiment mis le doigt sur le fait que c'était le côté compétition qui était au cœur de ça. Il fallait absolument que les enfants, quand ils venaient sur le terrain pour jouer au foot, l'idée c'était qu'ils viennent avec un état d'esprit, je vais jouer. Que je perde, que je gagne, c'est pas ce qu'il y a de plus important. On a eu un temps d'échange avec eux pour quand même leur expliquer la démarche, de constater avec eux qu'il y avait des soucis. Et on s'est dit peut-être que trop de foot tue le foot. Ça, c'était la première chose. Donc peut-être le foot, le mettre qu'une fois dans la semaine et permettre aux enfants les autres jours de faire autre chose que du football. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était que même si une équipe était très forte, à un moment donné, elle laisserait sa place. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas que tant que je gagne, je reste sur le terrain. Parce que juste parfois, c'était le cas. On a quand même limité également le nombre d'équipes. C'est-à-dire que c'est 4 équipes de 6 grand maximum où tout le monde se rencontre. Où il n'y a pas de classement, où il n'y a pas de résultat. Donc, tout le monde va jouer l'un contre l'autre. Du coup, maintenant, quand ils vont jouer, ils vont jouer pour essayer de marquer des buts, etc. Mais quand ils vont prendre des buts, il n'y a plus ce côté dramatique. C'est la fin du monde. À l'école, on ne fait pas du football. On joue au ballon. C'est déjà c'est une vraie différence. En club, on fait du football. À l'école, on joue au ballon. C'est du foot, mais on joue au ballon. Donc des enfants qui ont envie de jouer à qui on dit tu joues mais par contre si tu perds tu peux aller manger parce que enfin faire autre chose mais par contre c'est fini si je sais pas jouer, si j'ai jamais fait de foot en club mais que j'ai envie de jouer quand même, du coup j'ai pas ma place. L'idée c'était aussi que tous les enfants, peu importe leur niveau et leur place. S'ils ont envie de jouer, il faut qu'ils aient du jeu et il faut qu'on leur garantisse quand même un temps de jeu où ils s'amusent, parce que c'est un temps d'amusement.
Vu que tu as joué au foot aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur les équipes, sur le foot, etc. Ce que tu en penses?
Moi, je trouve que j'aime bien ce sport. J'aime bien ce sport. C'est amusant, ça nous apprend à tirer, à jouer.
Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans les équipes ou pas du tout?
Oui, j'ai remarqué qu'il y avait 3 filles et 3 garçons.
Ah, et pourquoi?
Je ne sais pas, mais je trouve que c'est égal.
Après, il y a une règle qui a été non négociable. C'était que les équipes, elles devaient être mixtes. Voilà, donc tous les enfants qui souhaitaient jouer, qui souhaitaient présenter une équipe pour jouer. Donc si on faisait des équipes de 6, il fallait qu'il y ait 3 filles, 3 garçons. Les effets ont été, se sont vus, mais tout de suite. L'idée, c'est pas d'obliger les garçons à jouer avec les filles, mais les inciter au maximum de se dire, on a une équipe, voilà. On va essayer de jouer ensemble et de faire du mieux possible ensemble et que tout le monde participe. Et au début, c'était pas facile parce que, étant donné que jusque-là, ils les avaient pas inclus spontanément avec eux, volontairement, et que maintenant ils avaient besoin des filles pour pouvoir jouer, au début, les filles, elles voulaient pas trop. Elle voulait pas trop jouer avec les garçons. Oui, mais moi je peux le comprendre. Et puis parfois il y a des enfants qui venaient me voir. Ouais, mais on veut les filles, veulent pas jouer, on n'a pas d'équipe. Je fais oui, mais c'est normal. Je fais mettez-vous à leur place. Jusque là vous faisiez comment? Et du coup une fois qu'ils les ont trouvés, du coup ils se les accaparent tout de suite. À partir de maintenant vous êtes dans notre équipe, vous jouez avec nous. Voilà, mais par exemple, à la balle américaine, il y a des filles et des garçons, mais on ne se pose pas la question de la mixité. C'est-à-dire que ça ne pose pas souci. Là, je me dis, on n'est pas encore dans ça, mais c'est un premier pas. C'est-à-dire que déjà, on a franchi le pas d'intégrer pleinement les filles.
Bonjour, moi je m'appelle Elias, je suis en CM2B et j'ai 10 ans. Moi, le foot, je trouve que c'est bien. Il y a 3 filles, 3 garçons. On a assez de temps sur les matchs. Et c'est bien.
Dans quel but, en fait, la mixité est mieux?
En fait, on est beaucoup plus... Moi, pour ma part, il y avait des gens qui étaient dans mon équipe que je connaissais pas forcément. Enfin, je connaissais, hein. Mais j'ai appris à les découvrir dans l'esprit d'équipe et tout ça, et maintenant je mange clairement avec eux, je m'amuse avec eux, et en fait ça a créé un rôle d'amitié, c'est vraiment super sympa ça.
Je trouve que ça serait correct, même en foot professionnel.
Je pense que moi j'aime pas l'idée de que les foot sur par exemple à la télé, j'aime pas l'idée que ça soit que des garçons.
J'aime pas l'idée que ça soit entre sexes, en fait.
Comment ?
J'aime pas l'idée que ça soit entre sexes, soit féminin, soit masculin.
Tu aimerais des équipes mixtes, même au niveau professionnel ?
Oui.
Ah oui, c'est pas mal, ça.
Donc moi c'est Youssef Alouane, donc du coup je suis animateur au centre de loisirs Maurice Thorez élémentaire et je suis sur Thorez depuis janvier 2015. Moi quand je suis arrivé sur cette école, les filles jouaient au foot parce qu'il y avait déjà un projet le mercredi qui était suivi par Abdel, un ancien animateur qui était ici, qui avait un projet foot féminin. Donc il y avait le mercredi du foot, mais alors c'était pour les filles. Donc les filles, le midi, jouaient au foot. Elles s'intégraient avec les garçons, mais pas dans une même équipe. Et les filles jouaient au foot, participaient, mais on était dans une forme de compétition. Le football en club, ça a ses codes, mais le football à l'école, on est clairement dans le plaisir. Voilà, partager un moment ensemble, le temps de, voilà, le temps d'aller manger, etc. C'est une activité comme une autre. Alors, le foot, c'est fédérateur, ça rassemble beaucoup, mais là, on n'était plus dans ça, on était dans la compétition parce que les enfants qui jouaient, bah, pour certains jouent en club, donc ramener cette culture club à l'école. Et du coup, bah, culture de la gagne, je veux pas perdre, je veux absolument gagner.
L'année dernière, il y avait trop de bagarres. Il y avait que des garçons qui jouaient et pas les filles. Au handball, c'était pareil. Et maintenant, on aimerait bien que ça change.
On est obligé d'arrêter le foot pendant quelques temps parce qu'il y a trop de soucis. On est obligé de priver certains enfants de foot parce que ils n'arrivent pas à prendre de la distance par rapport au jeu. Il y a un espace délimité et qui a deux buts, donc automatiquement, c'est le terrain de foot, et même moi j'appelle le terrain de foot. Mais on peut y faire plein de choses sur cet espace-là, pas que du foot. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était que bah, même si une équipe était très forte, bah, à un moment donné, elle laisserait sa place. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas que tant que je gagne, je reste sur le terrain, parce que juste parfois, c'était le cas. On a quand même limité également le nombre d'équipes, c'est-à-dire que c'est 4 équipes de 6 grand maximum, où tout le monde se rencontre, où il n'y a pas de classement, où il n'y a pas de résultat. Donc tout le monde va jouer l'un contre l'autre. Jusque-là, ils faisaient des équipes, par exemple, ils savaient qui faisait du foot en club, etc. Donc ils savaient qui jouait bien, etc. Donc ils faisaient clairement, ils essayaient de faire une équipe qu'avec des très forts, avec des enfants qui sont codifiés par le jeu, qui savent faire un contrôle, qui savent faire une passe, qui savent faire un dribble, qui savent faire plein de choses dans le cadre du foot. Et du coup, dans l'objectif de gagner. L'idée, c'était de gagner. Étant donné que maintenant, l'objectif, c'est pas de gagner, mais que c'est de jouer. Donc en fait, il n'y a plus d'intérêt à se mettre entre trois forts, parce que de toute façon, même si tu gagnes le match, de toute façon, tu sors. Donc, étant donné que l'objectif a carrément changé, bah, du coup, la conception des équipes même a changé. C'est-à-dire que maintenant, clairement, ils vont faire une équipe d'affinité. Même entre garçons. Bah, autant un petit garçon qui vient sur le terrain et qui demande à jouer, bah, on l'intègre dans une équipe. Bah, là, une petite fille, ça va être un peu le cas maintenant. C'est-à-dire qu'elle va venir sur le terrain, j'ai envie de jouer, je me mets avec qui ? Et puis là, on lui dit pas, non, tu joues pas, non, il n'y a pas de place. Le souci des filles, pour en avoir discuté avec elles, c'est que comme les garçons jouent foot en club et qu'elles non, du coup, bah, quand elles n'arrivent pas à faire quelque chose, tout de suite, on leur crie dessus, c'est de ta faute, etc. Alors du coup, c'est pour ça qu'elles ne voulaient pas trop se mélanger, qu'elles voulaient rester entre filles, comme ça, dans l'équipe, bah, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes facilités. Du coup, et bah, c'est de la faute de personne. Et puis... Puis parfois, c'était juste génial. Quand elle prenait un but, elle se regardait, elle rigolait entre elles, etc. Donc, c'était top, ça.
Au niveau de l'état d'esprit, je trouve que, franchement, les garçons, ils sont plus attentionnés pour nous. Enfin, ils sont plus attentionnés qu'avant, je trouve.
Moi, j'aime bien le foot maintenant, mais c'est... En fait, j'aime bien aussi en CE2. Parce qu'en CE2, on avait des tournois, même si les filles ne pouvaient pas beaucoup jouer, on avait toujours des tournois au moins une fois par mois. Sauf que là, on a de moins en moins de tournois. Enfin, on a des tournois, hein, mais ils sont moins grandioses.
Voilà, il faut qu'ils aient en tête que tout le monde peut jouer, bah, que c'est possible de jouer que dans une même équipe, il y ait des filles et des garçons. C'est possible que les 6 coopèrent bien ensemble. C'est possible que malgré les différences de niveau, on arrive à jouer. On n'est pas là pour être les meilleurs de la cour. On n'est pas, voilà. Progressivement, on en est arrivé un peu à instaurer cette mixité. Et bah, du coup, maintenant... On va dire que ça se fait plus naturellement. Dans les autres jeux, par exemple, quand on fait du hand, quand on fait des sports co, et bah, ils essayent de garder ce cadre-là. C'est-à-dire que dans une même équipe, bah, ils essayent d'y inclure, de se mélanger sans qu'il y ait d'obligation. C'est ça qui est bien. Ces règles-là, elles étaient primordiales. Après, comme tout, bah, faut du temps.
Je trouve que le foot, c'est bien ici parce que déjà, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut faire des équipes, enfin, et tout le monde peut s'amuser. Et,
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Inès voulait aller danser. Écrit et illustré par Manon Bouchareux, édité par les éditions Libertalia. Au fond d'un jardin s'étendait la tranquille petite ville de Candie-Raton. La famille d'Inès y vivait depuis bien longtemps. Ses ancêtres étaient arrivés près du ruisseau avant même que le jardin ne ressemble à un jardin, au temps où les humains et les chats n'étaient encore que des légendes dans la bouche des rats voyageurs. Aujourd'hui, Inès et tous les membres de sa famille coulaient des jours paisibles dans leur terrier douillet, à l'abri du chêne et du pin qui délimitaient la propriété des humains. Chaque année, un grand bal était donné à Candie-Raton, un bal destiné à réunir tous les cœurs à prendre de la ville. Les jeunes rats et les jeunes rates allaient y faire la rencontre de leur vie. Les amoureux quitteraient alors leur doux foyer pour fonder une famille à leur tour. Un jour, leur raton irait au bal, et ainsi de suite. Cette année, Inès avait atteint l'âge du bal. Quelle ne fut pas la joie de sa famille lorsque sa lettre d'invitation arriva. Chacun mettait tellement d'espoir et d'attente dans cette soirée qu'aucun ne prêta attention à son silence.
« Inès !» la taquina son grand-père. « Tu rêves déjà du bal dans ton coin !»«
Allez, ouvre l'enveloppe !» la supplia sa cousine.
Après avoir lu l'invitation et regardé son petit monde se réjouir pour elle, Inès sourit, mais n'ajouta pas un mot. La conversation reprit de plus belle.
Le moment magique du bal faisait remonter tant de souvenirs que chacun y allait de son anecdote. Moi, j'ai gardé mon invitation et je l'ai même encadrée, se remémora sa tante.
Ton grand-père était si élégant dans son costume,
se souvint sa grand-mère.
Et qu'est-ce qu'il dansait bien ? On s'est tout de suite plu avec ma petite rate des prés,
ajouta Mo, son cousin.
L'amour au premier regard, dirent en cœur ses parents, les yeux dans les yeux. Il me tarde tellement,
soupira son petit frère.
Et moi donc ?
Renchérit sa cousine, Edine. Profitant d'un bref instant de silence, Inès déclara d'une voix calme.
Je ne veux pas aller au bal.
La surprise fut si grande que pendant de longues secondes, personne n'osa prendre la parole. Pour être sûr d'avoir bien entendu, son frère finit par demander.
Tu ne veux pas aller au bal ?
Inès lui sourit, l'embrassa derrière l'oreille et sortit de la pièce en répétant. Non, petit Ramissou, je ne veux pas y aller. Toute la famille se demanda ce qui pouvait bien empêcher Inès, leur rate chérie, de se rendre au bal de Candiraton. Qu'importait le problème, chacun se mit en tête de le résoudre. À la lueur des étoiles, ils savaient qu'il leur restait un mois pour trouver une solution. Le temps était compté. Dès le lendemain matin, ses parents voulurent la rassurer.
Inès, nous savons que c'est pas facile de grandir. Et c'est normal que cela te fasse un peu peur. Mais tu ne seras bientôt plus une ratonne. Il faut l'accepter, tu ne crois pas ?
On sera toujours là, maman et moi. Même quand tu auras ton propre foyer. Ce serait dommage de rater le bal, ma rate. On ne veut pas que tu aies de regrets, tu comprends ?
Inès comprenait surtout qu'il voulait qu'elle réponde oui à leurs questions et qu'elle avait peur de les décevoir. Elle sentait que sa vie était en train de changer et savoir qu'elle pourrait toujours compter sur ses parents aurait dû la rassurer. Le problème, c'est qu'elle ne voyait pas vraiment ce que cela voulait dire. Devrait-elle rester dans leur foyer tant qu'elle n'avait pas rencontré son âme sœur ? Quelques jours plus tard, Inès alla aider sa tante et sa cousine à faire éclore les fleurs du jardin. Mais au lieu de déployer les pétales des boutons, comme à leur habitude, elles passèrent la matinée à s'occuper de la jeune rate. Elles espéraient lui apporter assez de savoir-vivre pour qu'elle ose se présenter au bal.
Tu es toute repliée sur toi, Inès. Tu dois t'ouvrir davantage, être plus rate,
lui expliqua Edine.
Libère ton cœur et déploie tes pétales avec assurance,
mon petit bouton de rose, ajouta sa tante, qui aimait bien les métaphores. Inès ne dit pas un mot et se laissa guider. Elle apprit à faire différemment des choses qu'elle savait déjà faire, comme marcher, discuter, regarder, manger,
en prenant un air comme ceci, une voix plus comme cela, en plissant les yeux d'une manière, en bougeant ses doigts d'une autre.
Pendant qu'elle s'entraînait, elle se demandait si on pouvait vraiment choisir ses manières d'être comme on choisit ses habits le matin. Mais le jeu était plaisant. Un jeu d'actrice qui lui permettait de changer de rôle, mais dans la vie réelle. Les jours passant, ce fut au tour de son grand-père de proposer sa solution.
« J'ai compris ton souci, ma petite rate. » Mais je ne voulais pas t'embarrasser et en parler devant tous les autres. Tu es grassouillette. Et forcément, tu as peur de ne plaire à personne au bal. Logique. Ce qu'il te faut, c'est surveiller ce que tu manges à partir d'aujourd'hui. Et faire preuve de volonté. Ne t'inquiète pas. Tu auras encore le temps de retrouver la ligne d'ici là.
Inès ne se souvenait pas l'avoir un jour perdue. En mangeant son petit pois, elle écoutait son grand-père faire la liste interminable des aliments interdits. Elle ne le contredit pas, car elle savait que cela ne servait pas à grand-chose. Quand papy avait une idée en tête, impossible de l'en déloger. Mais dès qu'il fut à la sieste, elle en profita pour savourer un bon morceau de fromage. Sacré papyramide. Peu après,
elle accompagna son petit frère chez un ami mulot, de l'autre côté du champ de coquelicots. Durant tout le trajet, elle supporta le papotage sans fin de Ramissou. Il voulait la convaincre de la chance qu'elle avait de pouvoir aller au bal.
« Si j'étais à ta place, en ce moment, je n'accompagnerais pas mon frère à travers champ. Oh non ! Je penserais bal, je me réveillerais bal, je me coucherais bal, j'essaierais des coiffures, des parfums, des vêtements. Je rêverais à l'histoire d'amour qui m'attend. Je penserais au prénom de mes futurs ratons, à la décoration de mon foyer. Je danserais dans ma chambre. Je serais sur un petit nuage. »
Et patati et patata, pensait Inès. Même à son âge, je n'étais pas aussi fleur bleue. Elle frappa un soir à la porte de son cousin, qui vivait dans le grenier des humains.
Salut, Mo. Ah, la plus rebelle de mes petites cousines. Quelle surprise. Et tu as vraiment ébahi toute la Smala la dernière fois. Que me vaut ta visite?
Bah, justement, toute cette histoire de bal et d'âme sœur.
Tu sais, fillette, la coupa-t-il. Moi non plus, je ne voulais pas aller au bal, mais j'en suis pas mort.
Mais pourquoi y être allé?
Oh, je crois que j'avais peur que tout leur tralala ne marche pas avec moi. À qui allais-je bien pouvoir correspondre avec ma drôle de bobine et mon côté décalé? Pourtant, ouais, je me suis un peu forcée. J'ai jamais regretté de m'être laissé convaincre, hein, car c'est là-bas que j'ai rencontré ma belle Deschamps. Elle aussi était un peu à part. Finalement, hein, chacun peut trouver chaussure à son pied. Hein. Alors rassure-toi. Et enfile cette tenue. Je vais te donner envie d'y aller, moi, à ton bal. Il s'agirait quand même de savoir un peu danser, non? Tu vas leur en mettre plein la vue.
Il mit une musique endiablée et apprit des pas de danse un peu rétro à Inès, qui ne se fit pas prier. Oh, c'était si agréable de se laisser porter par le rythme, les yeux fermés, qu'elle en oublia presque cette histoire compliquée de pieds auquel il faut absolument trouver une chaussure. Dimanche, alors qu'elle rendait visite à sa grand-mère dans le cabanon des humains, elle apprit qu'une surprise l'attendait.
« Une surprise? Qu'est-ce que c'est, mamie Molette ?» trépignait Inès. « C'est ce que tu désires le plus en ce moment, ma ratiche. Les mamies sentent ces choses-là. »
Inès se rendit compte assez confusément qu'elle était incapable de dire ce qu'elle désirait le plus en ce moment. Comment sa grand-mère aurait-elle pu le savoir? En la suivant jusqu'à sa chambre, elle découvrit une robe bleue sur un valet. Elle comprit, au sourire de sa grand-mère, qu'il s'agissait de la surprise. Alors, elle sourit à son tour pour lui faire encore plus plaisir.
« Alors, tu ne pouvais quand même pas aller au bal avec un de tes bermudas? Dans cette robe de soirée, tu brilleras 2000 feux pour ton raton lover. »
À ce moment-là, Inès remarqua que son petit frère, lorsqu'il inventait ses histoires à l'eau de rose, avait la même lueur dans les yeux que mamie Molette. Elle se dit aussi que, décidément, elle ne savait pas ce qu'elle désirait le plus dans la vie. Car, toute jolie qu'elle était, cette robe bleue n'était de toute évidence pas ce qu'elle désirait le plus en ce moment. La veille du bal, dans sa chambre, elle réfléchit à tout ce qu'elle avait appris ces dernières semaines. Après tout, grandir, jouer la comédie, faire des projets, danser, s'apprêter. Cela lui avait plu. Et puis la robe était très belle. Une part d'elle était prête à essayer, pour voir. Le soir du bal arriva. Inès avait mis sa robe. Toute la famille était réunie et satisfaite. « Ma grande fille !» dit papa.
« Tu es magnifique !» ajouta mamie Molette. Et surtout, amuse-toi, lui conseilla son cousin. Tu en jettes, commenta sa cousine. Tu me raconteras, implora son frère. Mais ne passe pas ta soirée à grignoter,
la mit en garde son grand-père. Sa tante haussa les épaules et lui fit un clin d'œil. Sa mère la serra dans ses bras et Inès prit la route du bal. Il avait lieu dans une cavité du tronc du grand chêne. À l'approche de la fête, elle se mit à cheminer de plus en plus lentement. Sur la place du chêne se trouvait un banc. Inès décida de s'y asseoir quelques instants pour réfléchir. Elle fut rejointe, peu de temps après,
par une rate qui était visiblement aussi indécise qu'elle. « Pourquoi n'entres-tu pas avec les autres ?» demanda Inès.
« J'en rêve, mais ma robe ne me va pas. J'ai peur de ne plaire à personne et je ne sais même pas danser. Et toi ?»«
Je n'ai jamais rêvé d'aller au bal des cœurs à prendre. Ma famille, en revanche, n'a que le bal à la bouche. Et j'ai tant appris d'elle que je voulais lui faire plaisir. Mais quelque chose me retient. »
Oh, c'est vraiment pas une raison suffisante pour y aller, commenta l'inconnu. Tu devrais plutôt explorer tes propres rêves, chercher ce qui pourrait te rendre heureuse.
C'est juste, souffla Inès. C'était dur pour elle de savoir qu'elle allait décevoir ce qu'elle aimait.
Oh, c'est ma vie, après tout. Je ne vais pas la passer à m'oublier pour faire plaisir aux autres.
Bien parlé. Quel courage. Je m'appelle Joline, annonça la rate en tendant sa main.
« Et moi, Inès, » répondit-elle en serrant la main de sa nouvelle amie. « J'espère qu'ils comprendront. »« À toi d'avoir du courage. Tu ne vas quand même pas rater le bal de tes rêves parce que tu n'aimes pas la couleur de ta robe. Que dirais-tu d'aller un peu à l'écart pour que je te montre quelques pas de danse ? Cela te redonnera confiance, » proposa-t-elle, enjouée.
Elles s'éloignèrent juste assez pour entendre la musique et se mirent à swinguer comme des folles. Une fois ces quelques mouvements appris, Inès poussa Joline à rejoindre le bal.
Merci Inès, grâce à toi quelqu'un va rencontrer la rate de sa vie ce soir, plaisanta Joline, sûre d'elle à présent.
Inès continua à danser seule sous la lune, de plus en plus vite, en inventant de nouveaux pas. Elle savait que ça n'allait pas être simple de répondre aux questions des siens, mais elle était soulagée d'avoir pris sa décision. Pour l'heure, elle était elle-même la rate de sa vie.
Et c'était très bien ainsi.
Après quelques danses et un détour par le ruisseau, Inès regagna sa maisonnée. Tout le monde attendait son retour avec impatience. Ramissou était encore debout. Lorsqu'elle poussa la porte, les discussions s'arrêtèrent et de grands sourires lui furent adressés. « Alors ? Alors ?» Inès alla s'asseoir sur le seul fauteuil vide et déclara posément. « Alors ? Je n'y suis pas allée. » Elle put voir la surprise dans les yeux de chacun. Ramissou était perplexe. Personne ne s'attendait à cette nouvelle, et surtout, personne ne semblait la comprendre. Inès reprit. « Je suis allée jusqu'à la fête, mais je ne suis pas entrée. » Ses parents rompirent le silence en essayant de ne pas trop dramatiser.
« Tu fais comme tu veux, Inès. C'est ta vie, hein. Mais c'est une occasion unique, tu sais. »
« Il n'est pas trop tard pour y retourner. » « Tu risques de t'en mordre les doigts, Maratiche. » Tout le monde approuva. Il l'encourageait pour son bien. Inès répondit d'une voix assurée. « Oui, je sais que vous êtes inquiet et que vous désirez que je réussisse ma vie. Mais quitte à me tromper, je ne souhaite pas me forcer à faire un choix qui ne me ressemble pas, juste pour vous faire plaisir. » Elle regarda ses parents. « Aujourd'hui, c'est de fonder un foyer. » et de donner naissance à des ratons dont j'ai peur de me mordre les doigts. Quelle responsabilité ! À son grand-père qui fronçait les sourcils, en assurant que l'on n'avait jamais vu ça, Inès rétorqua qu'elle aimait à la fois les petits pois et le fromage. Personne ne comprit ce que cette phrase mystérieuse signifiait. Alors elle précisa. « Papy, je n'ai pas envie de me demander si mon corps est trop ceci ou pas assez cela, mais de savoir ce dont il est capable. » Grâce à Mo, par exemple, j'ai appris que je pouvais danser. Et j'adore ça.
Dans une belle robe sans bermuda en dessous, ce serait tout de même plus joli et plus commun,
souligna sa grand-mère, un rien vexé.
J'aime ta robe, mamie Molette, s'exclama Inès. Si j'ai mis un bermuda en dessous, c'est simplement parce que c'est plus pratique. Je ne me retiens pas de tourner ou de sauter. Je peux faire tous les mouvements que je veux. « C'est tout aussi beau, tu ne trouves pas ?» demanda-t-elle en tournant sur elle-même.
Décidément, sa sœur était originale, se disait Ramissou. Mais il fallait bien reconnaître qu'elle avait réponse à tout. C'était déconcertant.
« Mais enfin, tout le monde veut aller au bal. Et en plus, tu aimes danser. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?»
Elle s'adressa à lui tendrement. « Au lieu de vivre dans un futur imaginaire, « profite de ton présent, Ramissou. L'heure de ton bal viendra bien assez tôt. Si tu étais à ma place, tu ne mangerais pas bal, tu ne respirerais pas bal, tu ne dormirais pas bal, l'imita-t-elle. Si tu étais vraiment à ma place, tu te demanderais pourquoi tu es si différent des autres. Tu essaierais de te connaître toi-même. Tu te dirais « Qui sait ce que je veux faire de ma vie? Qui sait ce dont j'ai vraiment envie ?» Elle se tourna vers sa tante et sa cousine en souriant. « Tati, Edine, j'ai essayé d'être plus rat et d'avoir confiance en moi, comme vous me l'avez appris. Merci pour vos conseils et pour votre aide. Peut-être suis-je encore trop ratonne, mais je n'ai pas réussi à me forcer. » Elle regarda les membres de sa famille, un par un, avant d'ajouter « C'est tellement dommage de tous vous décevoir, mais c'est comme ça. » Mais enfin, Inès, ma grande petite Inès, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de réaliser, lui rétorqua affectueusement sa tante. Dans cette histoire d'être rat, il ne s'agissait pas de te forcer à quoi que ce soit, mais de devenir celle que tu es vraiment. Parmi tous les conseils que l'on t'a donnés, tu as pioché en fonction de ce qui résonnait en toi. Et aujourd'hui, voilà que tu es plus rate que jamais. « Quel cran !» approuva sa cousine. « Fillette, tu es épatante !» admira son cousin. Les semaines passèrent, lorsqu'un matin, une nouvelle lettre d'invitation arriva pour Inès dans la boîte aux lettres. Son amie Joline allait fonder un foyer avec un rat rencontré lors du bal. Pour célébrer leur installation, ils organisaient une fête dans leur nouveau terrier. Inès était invitée et ravie. Pour rien au monde, elle n'aurait raté une occasion de danser. Le jour de la fête, elle se présenta à l'adresse indiquée, dans un coin coquet de Candiraton. Elle embrassa Joline et Gibus, son compagnon, puis alla rejoindre la piste de danse. Alors qu'elle tournoyait et se balançait en rythme, elle remarqua quelques regards appuyés de la part d'autres convives. Mais elle n'y prêta pas attention et continua à virevolter. Plus tard, durant la fête, tout le monde fut réuni autour du couple vedette pour partager un gros gâteau. Mais lorsque Joline tendit sa part de gâteau à Inès et que les invités entendirent son prénom, cela déclencha une avalanche de questions.
« Inès ? Celle qui n'est pas allée au bal ?»«
Pourquoi ne désires-tu pas rencontrer un compagnon ?»«
N'aimes-tu pas la présence des autres rats ?»
Que penses-tu du bal et des habitants de Candiraton ?
La vie que nous menons ne te semble pas assez bien.
Vas-tu supporter de passer ton existence toute seule ?
Joline interrompit soudain ses amis.
Laissez Inès tranquille. Si elle n'avait pas été présente le soir du bal, je n'aurais jamais trouvé la force d'y entrer. Je n'aurais pas rencontré mon rat Gibus, et nous ne serions pas réunis ici aujourd'hui.
Inès reprit la parole. Si ça ne vous fait rien, je ne souhaite pas vous expliquer mon choix, mais je ne méprise pas le vôtre, sinon je n'aurais jamais encouragé Joline. Profitons plutôt de cette belle fête, et dansons !» Inès joignit le geste à la parole et retourna sur la piste en finissant sa part de gâteau. En pleine danse, seule au milieu des autres, elle se rendit compte qu'elle aurait à faire face à beaucoup d'incompréhension. On n'avait pas fini de l'interroger. Elle envisageait soudain les temps futurs avec appréhension. Pourquoi fallait-il qu'elle se justifie ? Elle n'avait commis aucun crime, à ce qu'elle sache. Une main lui toucha très légèrement l'épaule. Elle s'interrompit immédiatement et se retrouva face à une rate de son âge. L'inconnu la dévisageait et semblait hésiter à lui poser une question. Inès sentit la colère monter en elle. Elle était à deux doigts des larmes et se préparait à répondre.
« Oui, c'est moi. Et alors ? Mêle-toi de tes affaires. Mêlez-vous tous de vos affaires !»
Mais avant que sa colère n'explose, l'inconnu eut le temps de lui dire « Je n'y suis pas allée non plus. » Puis elle fit un grand sourire, auquel Inès répondit par un silence prolongé.
« Au bal !» reprit l'inconnu. « Je ne suis pas non plus allée au bal. »
J'avais compris.
« Ah, Inès, je vois que tu as fait la connaissance de Sarah. Je voulais absolument que vous vous rencontriez aujourd'hui.
Sarah est la cousine de Gibus. C'est incroyable, non ?»«
Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule, » enchaîna Sarah. « Ce n'est pas facile de devoir expliquer son choix à tous ceux qui ne le comprennent pas. J'ai l'impression de faire peur,
Même ma famille m'a écartée. Au moins, toi, je suis sûre que tu n'as pas peur de moi.
Ça, non. Et je suis également bien contente de te rencontrer.
Sarah et Inès restèrent jusqu'à la fin de la fête et discutèrent toute la soirée. Elles se demandèrent de quoi elles avaient véritablement envie dans leur existence. Aucune des deux n'était capable de formuler cette envie clairement. Aucune ne savait tout à fait expliquer pourquoi elle n'avait pas joué le jeu du bal. Elles se mirent donc en tête de parcourir des paysages inconnus et de rencontrer un grand nombre de rats et de rats différents. Cela les aiderait sans aucun doute à découvrir leurs aspirations les plus secrètes. Après s'être dit au revoir, Inès se retourna et cria en direction de Sarah.
« Tu as quelque chose de prévu demain ?
Non ?
Tu es déjà allée au-delà du ruisseau aux merles ?
Jamais !
Tu m'accompagnerais de l'autre côté de la rive, pour commencer ?
Bien sûr, de l'autre côté de la rive, et au-delà encore ! »
C'est ainsi que deux ratonnes se mirent en tête de découvrir le monde, comme les rats voyageurs l'avaient fait bien avant elles, du temps de leurs aïeux. Inès et Sarah étaient bien décidées à vivre une vie unique, à respirer toutes les fleurs et vérifier que les chats existent. Elles allaient prendre le risque de grandir loin de leur terrier pour devenir qui elles étaient. Deux jeunes rats, curieuses et aventurières, qui ne songeaient pas encore à revenir.
FM. C'est l'heure de Radio Cartable sur Radio Libertaire.
École Libris. École Libris. Les livres qu'il faut lire, lire, lire.
Bonjour, nous sommes la classe de CM2B de l'école Maurice Thorez B. Et pour cette dernière émission de l'année, nous accueillons Manon Bouchareux, autrice de l'album Inès voulait aller danser. Manon Bouchareux a fait des études de philosophie et de sociologie avant d'exercer plusieurs métiers. Travaille dans une ONG, directrice de centre de loisirs et maintenant professeure des écoles. Elle écrit également des livres pour enfants. Place à son interview.
Bonjour les enfants, alors vous avez lu ou entendu mon histoire, Inès voulait aller danser. Eh bien je suis là et puis j'attends vos questions.
Moi, c'est William. Manon Bouchareux, vous vous êtes orientée vers des études de philosophie et de sciences de l'éducation pour faire un master en études de genre. Pourquoi ce choix ? Était-ce une vocation dès l'enfance ou est-ce votre parcours personnel qui vous y a conduit ?
Alors, quand j'étais au lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire comme métier plus tard. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, pourquoi j'étais là, ce que je voulais faire. Et j'arrivais pas à arrêter un choix mathématiques ou littérature. Et je me suis dit que philosophie, ça me laissait le temps d'y penser. Finalement, j'ai voulu devenir prof de philo. Et ça a encore évolué au fur et à mesure de mes rencontres. Et je me suis toujours intéressée à l'éducation. Ça veut dire que je suis devenue animatrice très tôt, comme en tant qu'étudiante, même au lycée. Et donc du coup, j'ai marié à la fois mes questions sur le sens de la vie et ce que je pouvais transmettre aux enfants. Et donc pourquoi pas moi-même m'occuper d'enfants.
Moi, c'est Salimata. La question du genre semble être au cadre de votre vie. Avez-vous déjà été jugée sur vos choix ?
Alors, je dirais pas vraiment jugée sur mes choix, mais par contre, depuis que je suis petite, ça m'a souvent dérangée qu'on me dise que je pouvais ou non faire une activité parce que j'étais une fille ou parce que je n'étais pas un garçon. Enfin, voilà, dans les deux sens, ça a fonctionné. J'ai voulu faire du rugby. On m'a fait comprendre que le rugby féminin, c'était éducatif. Par exemple, j'avais pas droit au plaquage, donc je devais coller mes mains sur un partenaire et pas le plaquer, alors que les garçons y avaient droit. Et ça me frustrait beaucoup. J'ai voulu faire du basket au collège, mais il n'y avait pas assez de filles pour monter une équipe féminine, alors que l'équipe de garçons manquait d'éléments, mais je ne pouvais pas intégrer l'équipe des garçons. Donc voilà, il n'y a pas eu que le sport, mais disons qu'il y a eu beaucoup de moments comme ça où j'ai senti que ça me faisait réfléchir d'être une fille et de ne pas pouvoir participer à certaines activités, ou qu'on me confie plus facilement des garçons qu'à certains copains qui voulaient être babysitter et qui ne pouvaient pas être babysitter à ce moment-là. Donc voilà, c'est des questions qui m'ont déjà beaucoup intéressée quand j'étais enfant. Et plus j'ai grandi, et plus dans mes études revenait cette thématique de l'égalité filles-garçons et hommes-femmes.
Moi, c'est Fatoumata. Depuis combien de temps enseignez-vous? Pourquoi enseignez-vous plus particulièrement à des enfants porteurs de handicap et sourds?
Alors j'enseigne aujourd'hui depuis 4 ans, et avec les enfants sourds, ça fait 2 ans maintenant que je travaille. Je me suis orientée vers cette classe spécialisée, parce que auparavant, en centre de loisirs, j'ai travaillé avec des enfants porteurs de handicap, et parmi les porteurs de handicap, il y avait des enfants sourds et des enfants autistes, et que j'ai appris la langue des signes un peu sur le tas, avec l'expérience, et puis avec une collègue sourde qui m'a beaucoup aidée et beaucoup appris. Et donc, en étant à la fois prof des écoles et en sachant qu'il y avait une classe sur Paris dans le 11e arrondissement qui n'avait pas d'enseignante cette année-là, ou pas d'enseignant, j'ai postulé en disant que je ne l'aurais certainement pas parce que je ne suis pas spécialisée, je fais fonction de spécialisée. Et en fait, je l'ai eu tout de suite parce que c'était une classe qui, sinon, n'aurait pas eu d'enseignant cette année-là. Et finalement, au bout de la première année, j'ai beaucoup aimé me poser des questions sur comment transmettre alors que la lecture, c'est très difficile pour les enfants sourds. Voilà, ça m'a semblé être un défi à relever.
Moi, c'est Taki. Est-ce le travail auprès des enfants qui vous a donné envie de vous lancer dans l'écriture?
Quand j'étais enfant et adolescente, il m'est arrivé d'écrire des poésies ou des chansons. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et en grandissant, j'ai eu l'idée d'écrire pour les enfants suite à l'annonce d'un concours. Il y avait un concours d'histoire pour les enfants de 3 à 6 ans. Ça m'a plutôt plu d'écrire pour les enfants, de trouver le rythme qu'il fallait pour cet âge-là et d'illustrer aussi cette histoire. Et par la suite, j'ai eu l'idée d'Inès parce que j'essayais justement d'écrire un autre livre. Alors cet autre livre, il n'est pas écrit. Ça veut dire que j'ai voulu écrire un autre livre et finalement, c'est Inès qui s'est imposé. Voilà ce scénario qui est venu à moi. Et donc du coup, c'est pas le fait de travailler avec des enfants, mais par contre, travailler avec des enfants m'aide à écrire pour eux. C'est que je vois à peu près à quel public je m'adresse parce que j'ai en tête les enfants pour lesquels j'écris.
Votre album « Inès voulait aller danser » raconte l'histoire d'une jeune rate invitée au grand bal des chœurs à prendre. Inès adore danser, mais elle ne veut pas aller au bal et se heurte aux volontés des membres de sa famille.
Pourquoi avoir choisi des personnages anthropomorphes pour aborder le thème des désirs et choix personnels?
Alors pour être tout à fait honnête, au début je comptais avoir des humains, ça veut dire que cette histoire allait se dérouler avec des humains et ça allait être une petite fille, Inès. Et finalement, quand j'ai abordé l'écriture, j'ai commencé par faire des croquis et des dessins. Et j'étais pas assez forte pour dessiner des humains. Alors j'ai commencé à dessiner des animaux. Et j'ai essayé tout de suite une souris. Je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que quand on est petit, en fait, on voit beaucoup d'histoires avec des souris et des rats. Et je devais être influencée par ça parce que j'aime beaucoup Fievel ou Brisby et le secret de Nîmes ou Célestine. Enfin voilà, il y a plein de souris. Et j'ai fait une première souris qui m'a plu. Et je me suis dit que j'allais m'améliorer dans les souris. Donc je me suis concentrée souris. Et c'est devenu des rats. Simplement à la faveur des jeux de mots. Et parce que je trouvais que ça faisait moins petite souris, ça faisait moins mignon de dire que c'était une rate. Et ça m'a permis ensuite, en écrivant l'histoire, de trouver tout un panel de jeux de mots autour des rats. Voilà, qu'en dira-t-on, mamie molette avec le fromage, etc.
Moi, c'est David. Votre texte est plein de jeux de mots, comme tiramisu, mamie molette. Comment cela vous a-t-il venu?
Le déclencheur, le tout premier jeu de mots que j'ai trouvé, c'est Mamie Molette. Et c'est parce que ma propre grand-mère s'appelle Colette. Et du coup, on l'a toujours appelée Mamie Colette. Et quand j'ai fait le personnage de la mamie, d'un seul coup, je me suis dit, je ne vais pas l'appeler exactement pareil. Mais il m'est venu en tête assez rapidement que je pouvais faire un jeu de mots avec un nom de fromage. Donc voilà. Et après, pour équilibrer le reste de l'histoire, j'ai essayé de trouver d'autres jeux de mots pour papyramide, pour tiramisu, etc.
Moi, c'est Noah. La plupart des personnages centraux de votre livre sont féminins. Votre but était-il de montrer que chacune fait des choix différents pour s'épanouir ?
Alors effectivement, j'ai choisi de mettre davantage de personnages féminins que de personnages masculins, mais il y a quand même des personnages masculins, hein. Il y a un papa, un papy, un frère, un cousin, donc j'ai pas non plus essayé d'éliminer les personnages masculins, il y a même Gibus, le compagnon de Joline. Mais oui, c'était important de montrer différents modèles féminins et de voir que même si elles ne font pas les mêmes choix, elles peuvent quand même se comprendre, s'entraider, et qu'on pouvait aussi avoir dans sa famille des référents, donc des parents ou des tantes qui n'étaient pas forcément du même avis ou qui n'avaient pas le même regard sur les choix d'Inès, là, en l'occurrence.
Moi, c'est Samy. Nous avons beaucoup apprécié qu'Inès se révolte contre la volonté de sa famille. On pourrait penser, elle dit « bip » à tout le monde. Pourquoi le fait-elle d'une manière aussi diplomatique ?
Alors c'était justement ça qui m'intéressait quand j'ai eu le scénario pour la première fois en tête. C'était comment est-ce que cette petite fille, donc au début, mais donc cette rate, fait un choix et se retrouve à devoir se justifier auprès de tous les membres de sa famille, mais en même temps sans claquer la porte à toutes leurs propositions. Ça veut dire qu'elle continue à apprendre de chacun. Elle apprend à danser, elle porte une robe, certainement pour la première fois. Elle se pose des questions sur le fait de grandir avec ses parents, ou elle apprend à avoir des attitudes différentes à sa tante. Elle lui montre un petit peu les codes sociaux, comment est-ce qu'on peut se déplacer, manger ou parler autrement. Et je voulais qu'elle puisse s'approprier des choses de sa famille tout en étant pas d'accord avec elle. Et si elle avait dû dire dès le début, il n'y aurait pas vraiment eu d'histoire. Ou alors ça aurait été l'histoire d'une rate qui se sépare, qui est en rupture, et donc qu'est-ce qu'elle devient après sans sa famille. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais raconter. Je voulais raconter quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais qui arrive à maintenir les liens avec tous les gens qu'elle aime, tout en s'affirmant en tant qu'individu, en faisant ses propres choix.
J'irai la chercher avec ses colifichets, ses hochets teintes de bruit, le ciel ouvert sur l'indicible. Son sourire fendu excite mes sens. Sage-femme, j'ai été, femme du passage, je serai. J'ai accouché d'enfants, d'idées prématurées, de concepts. Leur morsure m'a laissé du temps. Quelques traces, douze traces, soudure et la loi. Jusqu'à la dernière minute, en moi la vie des morts, en moi la vie.
Bonjour, je m'appelle Yaxane.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand et avec à la technique Flo Descailloux que vous connaissez bien et qui vous prépare comme pour chaque émission son cocktail musical. Nous recevons aujourd'hui Thomas Clerc pour Paris Musée du 21e siècle, le 18e arrondissement, c'est le sous-titre du livre, et ça vient de paraître aux éditions de Minuit. Je crois que vous avez d'ailleurs Thomas Clerc. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez remporté le prix Wepler.
Absolument, je suis très content et
de
très
la
fier.
Poste. C'est voilà. Un grand prix oui, littéraire.
Oui, oui. Oui, c'était un grand plaisir d'être récompensé pour un livre quand même qui m'a demandé pas mal de travail.
Oui, oui. Alors c'est un livre, j'allais dire un millefeuille, c'est un livre qui fait 600 pages. 600, attendez, plus
624, je crois.
624, pour être fidèle à 2024, pour voilà, y arriver avec
exactement.
2024. Je vous avais reçu pour un livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Intérieur, et là c'est bien, puisque finalement j'ai la complète. J'ai Extérieur, mais Extérieur, votre extérieur immédiat, qui est le 18e arrondissement.
Tout à fait.
Et puis vous avez réussi cette prouesse. Moi je ne suis pas très 18e arrondissement, mais vous, maintenant je le suis un peu devenu grâce à vous.
Ah, écoutez,
grâce
merci.
À vous, parce
merci.
Que c'est vrai que... vous nous faites aimer ce quartier. Et puis alors, la forme de votre livre, je rassure les auditeurs, c'est 600 pages, mais ça se lit très bien. Ça se lit très bien avec des trouvailles d'écriture, avec différentes vitesses de croisière, avec des transitions. Donc voilà, c'est un bonheur de lecture. Alors Thomas Clerc, d'abord il y a le titre, Paris, musée du 21e siècle. Est-ce que c'est une référence à Walter Benjamin, je suppose aussi. Est-ce que ce livre fait partie, parce que moi je vous connais, vous êtes quelqu'un d'assez, vous faites des recherches et tout. On se dit en voyant ça, Paris Musée du 21e siècle, moi je me dis, il y aura la suite. Et alors là, vous êtes embarqué pour 20 volumes, non 19 volumes maintenant.
Ben, en fait, 18, puisque j'avais déjà écrit un volume sur le 10e arrondissement.
Et voilà, donc il reste 18.
Voilà, il en reste 18. Voilà. Mais vu que j'avais quand même écrit le 10e arrondissement il y a 17 ans... Mon rendement n'est pas extrêmement productif, en ce sens que voilà, je n'écris pas que des livres sur Paris, j'écris aussi d'autres livres, mais mon projet de départ, c'était un peu mégalo, qui était de décrire l'ensemble des 20 arrondissements de Paris. D'où le titre un petit peu
c'est bien.
Grandiose, quoi, comme ça, il y a un côté un peu grandiose, mais c'est en même temps aussi un peu ironique, parce que bon, on voit bien que je pourrais pas y arriver. Je pense tout à coup à un auteur comme Léo Mallet, par exemple, qui avait écrit Les Nouveaux Mystères de Paris. Oui, il faisait une intrigue policière par arrondissement. Je crois qu'il n'a pas fait les 20 arrondissements. Il a dû en faire une dizaine au maximum.
Oui, mais on retient finalement la fresque de Léo Mallet. Et je trouve que l'élan...
Oui.
de un peu 19e, 19e siècle,
oui,
pour le
fait. C'est vrai. Oui, j'aime bien ce mot de fresque que vous employez. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, je trouve, c'est que 19e et 21e sont en fait un anagramme, en fait.
Oui.
C'est, voilà, en fait. Et il y a un peu l'idée aussi déjà un peu politique que malheureusement, le 21e siècle a tendance à ressembler au 19e siècle.
Littérairement, avoir des projets comme ça, un projet. Alors, c'est pas, on sait pas si c'est un roman, si c'est un récit. Je dirais que c'est presque un texte transgenre.
Mm-hmm. Oui.
Puisqu'il n'y a pas de genre littéraire.
Tout à fait.
C'est volontaire, ça?
Oui, je pense que c'est volontaire, en ce sens où moi-même, je ne saurais pas exactement le qualifier. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un roman, on peut dire que c'est un récit, on peut dire que c'est une espèce de guide, mais un guide très tordu.